Parlons d'abord de nos forces de l'ordre, si vous voulez bien, à l'heure où cette profession est à bout de souffle, à bout de nerfs, épuisée. Voilà des éléments qui ne vont sans doute pas l'apaiser. Des policiers seront jugés, sentence catégorique du procureur de Paris, Rémy Heitz, dans Le Parisien. On avait beaucoup entendu jusque-là, il y a une justice à deux vitesses, les gilets jaunes sont jugés très vite, les policiers beaucoup moins, il y a peu de procédures enclenchées. La preuve que non ?
La preuve que ça a mis quand même pas mal de temps. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des centaines de milliers de femmes et d'hommes qui ont manifesté, certains pour la première fois de leur vie, et ils ont découvert la brutalité de la répression, parce que effectivement, dans ces manifestations sur les ronds-points, il y a eu une brutalité, il y a eu ces fameux tirs de LBD, alors là, qui ont été très nombreux et souvent injustifiés, et on ne pouvait pas aller à une seule manifestation sans être inondé de gaz lacrymogène, sans des coups de matraque dans tous les sens. Et cela a été vu. Ça a été vu, ça a été filmé.
Le procureur de Paris vous répondrait, il y a une violence légitime et il y a une violence illégitime.
Tout le monde a en tête ce qui s'est passé pour Jérôme Rodriguez.
Oui. Les 8 procédures en question concernent Jérôme Rodriguez notamment.
Tout le monde a vu ce qui s'était passé dans ce fameux Burger King. Des personnes
même chose.
À terre, matraquées. Donc évidemment, ces violences policières, elles ont une réalité. Et il faudrait. Et je veux dire, autant de blessés, autant d'éborgnés, autant de femmes et d'hommes amputés, pourquoi ? Pour avoir manifesté, pour avoir dit ce qu'ils avaient sur le cœur. Voilà, pour avoir. Mais si, c'est ça la réalité. Alors, il faudrait dire.
Mais ils sont victimes d'une violence illégitime, alors, selon vous, justement ?
Attendez, ça pose quand même problème.
Il y avait des débordements aussi.
On va manifester pacifiquement. On veut porter effectivement une colère, une protestation, et puis on se retrouve à l'hôpital.
Tous les mouvements n'étaient pas pacifiques, vous en conviendrez, Nathalie Arthaud.
D'accord, mais le rôle des forces de l'ordre, c'est sûrement pas effectivement de multiplier les blessés. Donc bien sûr qu'il faut qu'il y ait ces enquêtes, il faut savoir la réalité. Et moi, ce que je voudrais quand même dire aussi, c'est qu'il faut sans doute s'interroger sur la responsabilité quand même du ministre de l'Intérieur et du gouvernement qui a effectivement mis en situation les forces de l'ordre, parce qu'ils ont une stratégie très très rapide, très très rapidement d'ailleurs dans le mouvement des Gilets jaunes, une stratégie de la tension. Et on a entendu M. Castaner expliquer que les Gilets jaunes c'était des casseurs, etc. et qu'il fallait y aller. Donc effectivement, il y a aussi une responsabilité, moi je crois, écrasante du gouvernement dans cette affaire-là.
La police de la République, elle a respecté pour l'essentiel les règles. Qu'il y ait quelques cas où il faut effectivement des procédures, très bien, mais moi je ne suis pas favorable au fait d'aller le dire, le médiatiser. Je trouve que deux côtés, d'ailleurs, la justice doit faire son travail.
Je ne suis pas du tout d'accord, parce qu'effectivement, il y a eu des milliers de blessés, parce qu'il y a des gens qui sont mutilés à vie, dont la vie, elle est bouleversée, juste pour avoir manifesté. Et ça doit être l'omerta, et il ne faut pas, faire d'enquête, et il ne faut pas chercher les responsabilités. Et par ailleurs, ce que je voudrais dire aussi, moi, il n'y a pas eu de mort. Vous dites qu'il n'y a pas eu de mort, il aurait pu y en avoir. D'abord, il y en a eu des morts.
Ah bon ?
Il y en a eu des morts, et moi je pense à cette dame, par exemple, à Marseille, qui fermait ses volets et qui a reçu effectivement une bombe lacrymogène.
Il n'y a pas de mort, liée aux interventions policières.
Et toutes ces blessures à la tête, aux yeux, mais d'où cela vient-il ? Cette utilisation systématique des LBD, alors même que les forces de l'ordre dans les autres pays européens ne l'utilisent pas. Ça a été des choix, tout ça. Ça a été des choix. Alors, des choix, effectivement, qui ont été pris au plus haut niveau. Et c'est pour la raison pour laquelle, effectivement, il faut demander des comptes aussi au gouvernement et au ministre de l'Intérieur. Et moi, j'ai été frappée.
Vous êtes donc sur la même ligne que Julien Oudoul sur ce point.
Mais souvenez-vous de cette histoire de la pitié salpétrière.
Oui.
Souvenez-vous, parce que c'est quand même assez révélateur.
Les manifestants qui sont rentrés dans l'hôpital
de la pitié salpêtrière. Et moi, j'y étais au 1er mai. Et c'était effectivement des charges de police qui nous mettaient effectivement en situation de danger. Pensons à ce qui s'est passé avec Madame Geneviève Leger à Nice.
Oui.
Pareil, c'est une charge, une charge qui était... Est-ce qu'elle était légitime, cette charge ?
Oui, mais il y a des enquêtes dans ces cas de figure, Nathalie Arthaud. Il y a des enquêtes dans ce cas de figure,
mais
là encore, par exemple, à Nice.
Précisément, donc le procureur de Paris en a rendu compte. Et voilà. Il en a rendu.
Et est-ce que ça change quelque chose sur le terrain, dorénavant ? Est-ce que, par exemple, ça met les policiers en situation plus compliquée ?
Mais je trouve ça normal, effectivement, d'avoir à rendre des comptes. Et je pense, encore une fois, qu'il faudrait effectivement demander aussi des comptes à ceux qui donnent les ordres.
Attention, les manifestations doivent être autorisées aussi. Vous savez qu'il y a quand même, on a eu des manifestations où, dont les parcours n'étaient pas annoncés ou bien pas respectés. Certaines manifestations étaient déclarées, mais pas toutes, et avec parfois certains qui avaient des comportements violents. Donc moi, je trouve que cette justification que vous apportez de toutes les violences me semble inacceptable.
Alors,
je vous le dis.
Voilà. Vous avez entendu justification de toutes les violences.
Il n'y avait pas de service d'ordre. Il n'y avait pas de service d'ordre
en même temps. Justifier les violences policières. Donc je ne justifie pas.
Les violences policières, c'est jeter l'opprobre.
Par ailleurs, effectivement, de samedi en samedi, ce qu'on a vu, c'est un droit de manifester de plus en plus restreint, y compris à Nice, alors que ce centre-ville était interdit. Enfin bon, ils étaient une vingtaine.
Je reviens sur le mot que
vous l'avez dit vous-même. 2 mètres au-delà de la zone interdite, il y a eu une charge.
Nathalie Arthaud, je reviens sur le. J'aimerais vous présenter une note que LCI s'est procurée, une note signée du directeur de la police nationale, Éric Morvan, qui fait des propositions contre ce drame qui frappe la profession, ce drame des suicides, on en parlait ensemble, Julien Audoul. Ça passe selon lui, en plus d'autres choses qui ont déjà été faites, par plus de convivialité, par exemple des barbecues, des sorties sportives, un moment de détente, un temps de partage comme des pique-niques. C'est ce qu'écrit noir sur blanc le directeur de la police nationale. Je suis sûr que quelle que soit l'entreprise, quand vous entendez la hiérarchie dire il faut plus de convivialité, vous ne voyez pas ça d'un bon œil.
Non mais c'est ça, c'est quelle que soit l'entreprise, parce que c'est vrai que là, de ce point de vue-là, il y a quand même on peut généraliser à toutes les entreprises et à la situation des travailleurs. Mais enfin là, c'est un aspect non seulement dérisoire, mais un peu ridicule, parce que le gouvernement l'envoie au casse-pipe, les envoie au casse-pipe, leur fait faire le sale boulot, et après il explique qu'il faut avoir envie, après le boulot, de faire venir ses familles, de faire des barbecues. Enfin bon, tout ça, c'est ridicule. Mais effectivement, dans les entreprises, vu les conditions de travail qui sont de plus en plus dures, les cadences, les horaires, le fait que les salariés sont coupés les uns des autres, peuvent même plus prendre de pause ensemble. D'ailleurs, vous savez, même dans des grandes entreprises, il n'y a plus de cantine. Il n'y a plus de cantine parce qu'il n'y a même plus le temps de bosser. Les gens, ils ont leur gamelle, ils doivent manger.
Ils n'ont plus le temps de faire une pause.
Ils n'ont plus le temps. Donc, c'est 18 minutes pour manger, pour aller chercher son café, éventuellement. Bon, voilà. Et tout ça, ça se fait quasiment en bord de ligne dans plein d'entreprises. Donc, les salariés ne peuvent plus se parler. C'est la fatigue, etc. Donc, et puis, en plus, de toute façon, rien n'est fait pour... Enfin, au contraire, même tout est fait pour que les salariés ne se parlent plus. Ne se parlent plus, ne discutent plus de leurs affaires, voilà, c'est très compliqué, mais même y compris pour des militants syndicaux, d'organiser des réunions, de s'adresser à l'ensemble d'un atelier ou à l'ensemble d'un service maintenant, de plus en plus difficile.
Pour vous, ce qui se passe dans la police, finalement, donc, c'est déclinable, et ce genre de circulaire, on pourrait les voir dans toutes les entreprises.
Mais à côté de ça, on nous explique qu'il faut développer la cohésion, enfin, tout ce baratin, alors qu'au bout du compte, ils imposent des conditions de travail tellement dures que la première chose à laquelle pensent les salariés quand ils rentrent dans l'entreprise, c'est à partir le plus vite possible, voilà, et aller vivre leur vie, aller respirer ailleurs. C'est ça la réalité.
Vous avez une vision de l'entreprise qui n'est pas très chaleureuse.
Mais je peux vous assurer que c'est le lot de la grande majorité aujourd'hui des travailleurs, parce que même quand on a la chance de faire un travail qui nous plaît, qui nous épanouit, qui nous enrichit. Déjà, c'est quand même quelque chose de...
Ce qui n'est pas si extraordinaire, je veux dire, il y a beaucoup de Français qui s'épanouissent.
Ah bon. C'est de plus en plus... c'est une chance exceptionnelle désormais dans cette société. Mais y compris ceux qui arrivent à faire un travail qui leur vocation, en quelque sorte, vu les conditions de travail dans lesquelles ça se fait, eh bien, ça finit par enlever tout le sens. Prenez ce qui se passe dans les hôpitaux, les infirmières, les aides-soignantes, elles vivent exactement ça. Exactement ça. Et voilà, parce que c'est une dégradation, effectivement, et puis une aggravation de l'exploitation, il faut le dire.
Bon. Gérald Darmanin, au-delà de la séquence communication ou pas, qui reprend le cours de sa vie de ministre comme si de rien n'était après les européennes, vous trouvez ça logique ?
Pas seulement après les européennes, après aussi ce mouvement des Gilets jaunes, parce que c'est une réalité que le gouvernement nous a expliqué qu'il allait revoir sa politique, qu'il allait écouter, répondre aux demandes sociales qui s'étaient exprimées dans ce mouvement. Et la réalité, c'est que il a envoyé de la poudre aux yeux. C'est parce que même les 5 milliards,
17 milliards,
même les 5 milliards de baisse de l'impôt sur le revenu, en réalité, et la baisse de la taxe d'habitation, etc., on va la payer. Et les plus pauvres la paieront, parce qu'il n'y aura pas d'argent pour les hôpitaux, parce qu'il n'y aura pas d'argent pour les écoles, pas d'argent pour les transports publics, pas d'argent... Enfin, voilà. Et on la payera. Donc, moi, je suis convaincue que la colère, elle est toujours là. Qu'elle soit jaune, qu'elle soit rouge, qu'elle soit noire, la colère, elle est toujours là. Et elle ne Elle sera d'autant plus là qu'en réalité, on s'enfonce dans la crise. Dans la crise, vous pouvez très bien brandir des taux de chômage, parce qu'avec ces taux, on peut faire tout ce qu'on veut, hein, c'est-à-dire masquer la réalité, mais la crise, elle continue.
Enfin,
et cette crise économique...
Les scores des uns et des autres devraient vous rendre
humble. Les statistiques... Écoutez, nous sommes ici pour discuter d'idées, pour débattre d'idées et de convictions. Donc, je ne suis pas...
Et toutes les sensibilités sont représentées.
Donc, discutons de cela et sur le fond...
Non, mais donnons pas trop de leçons.
Et sur le fond, eh bien, ces statistiques, c'est très facile de les trafiquer, hein, de faire
passer... Mais qu'est-ce qu'on trafique ? Je comprends pas.
Mais parce qu'il y a ceux qui sont au chômage, ceux qui sont mis en formation, parce qu'il y a les petits boulots qu'on compte plus dans les chômeurs, alors qu'ils cherchent un véritable emploi pour vivre, pour effectivement se projeter dans la vie, parce qu'il y a cet apprentissage qu'on nous brandit, etc. Mais tous ces petits boulots, donc c'est ça la réalité des classes populaires aujourd'hui. Alors, on nous parle de nouvelle économie, mais c'est quoi la nouvelle économie ? C'est le fait de livrer des pizzas en vélo. Il y a 30 ans, c'était en scooter. Aujourd'hui, c'est en vélo. Ouais. Ah ben voilà, c'est ça la modernité, hein, c'est de monter sa petite pizza au coin des rues. C'est la multiplication des auto-entrepreneurs dans les pays les plus pauvres. Je peux vous dire qu'il y a des auto-entrepreneurs de tous les coins de rue, des gens qui vendent leur...
Un modèle de société que vous voulez changer, on a bien compris.
Un bonbon, voilà, tellement ils sont pauvres. Alors aujourd'hui, c'est ça qui se généralise dans notre société.
Julien Margeton.
Et juste, je voulais dire, parce que c'est la crise profonde, et juste, je voulais dire, Whirlpool, General Electric, Ascoval, ça doit nous interroger. Effectivement, on est dans une société, le capitalisme, qui est en crise, qui est au bout du rouleau. C'est ça la réalité. Donc, évidemment, la situation de millions de femmes et d'hommes, elle ne peut que se dégrader dans ces conditions-là.
Si discrète, si présente, une semaine après le résultat des européennes, c'est un rendez-vous exceptionnel qui se profile sur LCI dimanche, 18h, dans toute franchise avec Adrien Gindre. Marion Maréchal sera là sur ce plateau.
Aujourd'hui, espère, voit en elle cette incarnation de la fameuse union des droites, hein, les Républicains, Debout la France, le Rassemblement National, donc que pourrait porter Marion Maréchal. Alors...
Oui, j'observe effectivement de loin, de très très loin, je ne me sens pas du tout concernée par tout ça, c'est vraiment de la tambouille politicienne.
Est-ce que ce n'est pas aussi une clarification idéologique ?
Non, mais pendant des décennies, on a eu... cette fausse opposition entre la gauche et la droite. Je dis bien fausse opposition parce que quand ils arrivaient au pouvoir, c'était la même politique, exactement la même politique. C'est-à-dire on déroule le tapis rouge pour les plus riches, pour les actionnaires, pour les grands bourgeois et les travailleurs dans la galère. Et c'était vrai avec la gauche au pouvoir. Et puis tout ça, ça s'est discrédité, effectivement, parce qu'au bout d'un moment, ça finit par se voir. Les classes populaires et les salariés, les ouvriers se rendent compte que c'est une impasse pour eux. Alors aujourd'hui, il y a une recomposition, effectivement. Alors il y a des débauchages, effectivement. Macron a réussi à attirer à lui certains qui venaient de la gauche, d'autres qui venaient de la droite, le Rassemblement National.
Il a attiré à lui des gens venant de la droite et de la gauche.
C'est pas du débauchage, c'est une recomposition.
Le Rassemblement National a sans doute l'ambition également d'attirer à lui des gens qui viendraient des Républicains, etc.
Déjà le cas.
Tout le monde, y compris d'ailleurs d'autres spectres, parce que même plus loin encore, puisque j'ai vu qu'il y avait quelqu'un de la France Insoumise.
Exactement.
Alors, tout ça, vous voyez. Moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, il est en train de se mettre en place une nouvelle fausse opposition, un nouveau duel. Mais pareil, alors là, c'est plus gauche-droite, c'est progressiste contre populiste. Hein. Mais au bout du compte, toujours pour gouverner dans le cadre de ce même système, où de toute façon, la priorité, c'est effectivement les affaires de ces grands groupes, c'est les profits, c'est la rentabilité, c'est cet ordre-là, c'est sans jamais remettre en cause, évidemment, la base de cette société qui consiste à sans remettre en cause l'exploitation, sans remettre en cause effectivement qu'il y a des classes sociales dans cette société, où quand on est travailleur, eh ben, en fait, on est dépendant de ceux qui prennent les vraies décisions. Il y a un changement, une recomposition politique, c'est une espèce de changement de costume, mais pour masquer la réalité du pouvoir qui est en fait dans ces grands groupes capitalistes, et le Rassemblement National joue évidemment ce jeu-là aussi.
On parle maintenant de notre pouvoir d'achat. Selon l'INSEE, il progresse de 0,9% au premier trimestre, qui est inédit depuis plus de 10 ans, et ce qui fait suite à une augmentation de 1,1% au dernier trimestre de l'an dernier. Et puis, un autre élément à notre débat, que j'apporte à ce débat, c'est qu'une bonne pourvoie, une bonne partie de ce pouvoir d'achat, qui selon l'INSEE a donc été dans les poches des Français, n'est pas réinjectée dans l'économie, elle va tout droit dans des réserves, dans nos bas de laine. Le taux d'épargne explose à 15,3%, la consommation des ménages n'enregistre qu'un tout petit bond. C'est la preuve, Nathalie Arthaud, que il y a de toute manière une inquiétude, si tant est que le pouvoir d'achat selon l'INSEE augmente. Factuellement, c'est ce que dit l'INSEE. Est-ce que ça s'accompagne de toute manière d'une inquiétude face à la politique du gouvernement ? C'est pour ça qu'on met de côté ?
D'abord, c'est complètement dérisoire, parce qu'y compris plus 0,9% pour des femmes et des hommes qui ont du mal, qui sont la tête sous l'eau.
850 euros sur l'année, c'est quand même pas dérisoire,
mais,
ça.
C'est dérisoire quand vous êtes à 1 000 euros, quand vous devez vivre avec une pension d'invalidité ou une pension handicapée, quand vous êtes au SMIC, c'est dérisoire.
C'est plus,
parce que, y compris le SMIC, et c'est plusieurs millions de femmes et d'hommes qui sont au SMIC, qui vivent au SMIC, et parfois d'ailleurs qui n'ont pas accès à un temps plein. Donc, ils sont autour de 900. J'ai rencontré d'ailleurs une caissière de chez d'un grand supermarché il n'y a pas bien longtemps. Et cette caissière qui m'expliquait qu'elle travaillait depuis 30 ans, c'est la première fois qu'elle dépasse les 1000 euros. Première fois qu'elle dépasse les 1000 euros net.
Et grâce aux mesures de pouvoir d'achat.
Mais non, mais parce que elle commence d'ailleurs à gagner un peu en ancienneté. Parce oui. que, mais attendez, oui. 1000 euros, oui. vous vous rendez compte ?
Bien sûr, ça reste très peu.
Mais ça reste très peu. Donc, de toute façon, ça ne peut pas. Sortir effectivement les classes populaires qui sont effectivement confrontées à des problèmes pour payer leur loyer, pour payer pour mettre de l'essence dans leur voiture. Ça peut pas être une réponse. Et moi, ce qui me frappe, c'est que là, on parle de plus 0,9%. Alors, le gouvernement se rengorge. Regardez, on est merveilleux, plus 0,9%. Mais enfin, regardez, l'augmentation des dividendes d'année en année, c'est pas plus 0,9%. Là, on trouve toujours deux chiffres. Plus 10%, plus 20%. C'est ça, la réalité de cette société où, à un pôle, l'argent, ça se compte par milliards. Alors, sur un mois, la fortune de Bernard Arnault, alors c'est évidemment la bourse qui attire des sommes astronomiques. Il a vu sa fortune augmenter de 10 milliards. De 10 milliards, vous vous rendez compte ? Donc voilà, on vit dans deux mondes. Il y a deux mondes dans cette société.
Et sur cette dimension de taux d'épargne,
je pense que ça trompe personne. C'est toute cette campagne sur le plein emploi, plus l'augmentation du pouvoir d'achat.
Julien Bargeton.
Personne et pas les travailleurs.
Le taux d'épargne en France, il est au plus haut depuis 2012. À l'époque, on était au plus fort de la crise grecque. Non mais d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un sentiment d'inquiétude sur ce qui peut se passer, sur des mesures qui peuvent être prises à l'avenir ?
Il ne faut pas opposer les Français aux entreprises, Madame Arthaud.
Mais on a qui besoin... les oppose ? C'est la politique.
Vous évitez mes questions avec soin, quand même, Julien Bargeton.
Je vous ai écouté.
Ils choisissent d'inonder les actionnaires, pas les dirigeants.
J'ai écouté votre logorée avec
ce
beaucoup de patience.
Ce n'est pas moi qui les oppose, c'est la réalité de la politique.
Nathalie Arthaud, on écoute la réponse de Julien.